Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Si vous nous rejoignez dans ce quartier libre matinal, quartier libre, donc je reçois comme prévu Martine Vallon du FNE 04, donc France Nature Environnement. Bonjour Martine.
Bonjour.
Alors on va refaire un rapide tour sur ce qu'est le FNE 04 et ses objectifs avant de venir au programme chargé de vos actions.
D'accord. Donc FNE 04, c'est France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence. Nous sommes la résurgence, je dirais, d'une association, fédération qui était l'Union départementale Vie et Nature. Et nous sommes une antenne départementale de France Nature Environnement, la grande association française de protection de l'environnement. Nous sommes à la fois associatives, c'est-à-dire que nous avons des membres individuels, mais aussi fédérations d'associations locales qui ont un projet à défendre dans le domaine de l'environnement ou qui ont un projet à attaquer dans le domaine de l'environnement, ou bien d'autres associations plus diversifiées et plus larges, mais qui ont un souci sur les questions nature, environnement, éducation et sensibilisation, et donc à qui on peut apporter parfois notre expertise ou une aide dans leurs activités, ou bien une meilleure visibilité. Et puis aussi, ce qui leur permet d'être informés, puisque nous avons tout un dispositif de veille au niveau régional, dans la mesure où on fait partie de la Fédération régionale France Nature Environnement PACA.
Vous informez, on fait appel à vous, et vous faites aussi des enquêtes quand il y a besoin par rapport à des plaintes de pollution de l'environnement.
Oui, alors on a beaucoup d'actions d'information ou de sensibilisation, et puis aussi effectivement on peut servir de conseils, d'expertise auprès de petites associations ou de collectifs locaux qui se créent lorsqu'il y a une pollution sur un des points du département. Et il nous arrive bien sûr depuis toujours, donc là, de mener des affaires en justice lorsque un projet porte atteinte à l'environnement. Ça a été le cas par exemple pour une affaire qui a duré maintenant près de presque 10 ans de procédure, où nous sommes allés jusqu'en cour d'appel sur un projet qui est sur le Lozay-sur-Ubaye, donc de création d'un... au départ, ça devait être un UTN, une unité touristique nouvelle, et ça s'est transformé en camping, et donc avec des éléments qui contreviennent aux lois de protection de l'eau, aux lois montagne, etc. Et donc ça fait partie des affaires qu'on a suivies pendant des années et qu'on a gagnées. Et puis, notre réorganisation avec depuis 2 ans la possibilité d'avoir une salariée nous fait que nous avons pu développer beaucoup d'actions sur le terrain durant l'année 2015. Donc ce poste est financé par le Conseil régional. Nous avons une aide pour la création de ce poste. Et ça nous a permis de mettre en place presque une trentaine d'actions de terrain sur l'ensemble du département.
Donc en 2015.
En 2015, oui. Donc des journées grand public ou bien des journées qui s'adressent aux élus ou aux professionnels techniciens. On a aussi tout un aspect éducation à l'environnement qui s'adresse là aux enfants. Et donc on intervient dans les écoles pour sensibiliser les enfants sur un domaine spécifique qui est la rivière. Donc là, on a eu plusieurs actions sur des écoles de la vallée du Jabron et puis Valensol. Et en ce moment, on est sur les écoles d'Aimé, donc pour ces journées sensibilisation, donc où on amène les enfants dans la rivière et où on leur montre qu'est-ce qui existe, quels sont les animaux, les petites bêtes qu'on peut trouver, etc.
Donc ça, c'est très important pour d'intervenir dans les écoles. Et c'est financé par qui ?
Donc ça, c'est financé par l'ADREAL, donc et l'Agence de l'eau. Donc, ce sont des programmes que nous menons depuis quelque temps et qui sont menés par des associations adhérentes aussi.
Quel est le j'imagine que les enfants sont assez ouverts pour ça.
Oui, en général, ce sont toujours des moments importants et intéressants. Alors, très importants parce que effectivement, c'est miser sur l'avenir. Donc, mm-hmm. c'est commencer avec les enfants de leur montrer la richesse qu'ils ont autour d'eux, de leur montrer sa fragilité, l'importance de l'eau. Et donc, on peut ensuite aller aussi sur les questions de risque de pollution, etc. Et puis, les enfants sont toujours très, très réactifs et très ouverts sur ces questions-là. Donc, effectivement, c'est toujours très ludique aussi comme, mm-hmm. comme intervention. Donc. Et puis, on travaille aussi sur des formations, des sensibilisations, formations en direction à ce moment-là des élus ou des techniciens des collectivités. Donc, on a eu à mener des formations sur les questions d'urbanisme. L'objectif est de faire intégrer dans les documents d'urbanisme, donc les PLU, les SCOT, etc., la problématique de l'environnement et d'essayer d'amener dès le départ ce souci dans le cadre de la structuration d'une collectivité. Et donc avec les thématiques qui sont autour des risques d'inondation et de ce qu'il est possible de faire pour s'en prémunir ou bien de quelles sont peut-être les structures qui ont été montées du type digue, etc., et qui renforcent à certains moments la problématique du risque, les questions de bétonisation de certaines zones qui font que l'eau ne peut plus s'infiltrer, tous ces aspects-là qui nécessairement devraient être réfléchis et intégrés dans les documents à partir de l'instant où on envisage une évolution d'une commune ou d'une zone déjà industrialisée. Donc ça, ça fait partie aussi, par exemple, de nos interventions, je dirais, en amont des risques de problèmes. Et à l'heure actuelle, on travaille aussi sur les questions, donc ça c'est une de nos thématiques récurrentes, la question des déchets ménagers et la question du traitement de ces déchets. Donc on avait hier une réunion sur ce sujet.
Au mai,
c'est ça. Voilà.
Alors, qui a réuni des acteurs locaux, des élus en fait.
Oui, mm-hmm. beaucoup d'élus sont venus, effectivement, essentiellement parce que je pense que aujourd'hui ils sont sensibilisés vraiment à cette question-là. Ils sont en première ligne pour essayer de répondre à cette problématique, et donc effectivement, c'est quelque chose qui les concerne au premier chef. Vous savez, alors aujourd'hui, la loi a évolué. Jusqu'à présent, les déchets ménagers étaient de gestion départementale. La compétence était au département qui devait mettre en place une organisation et donc à travers un plan de gestion départementale des déchets ménagers. La loi NOTRe a donc fait évoluer cette question et aujourd'hui la compétence est dévolue aux régions. Donc la région PACA va devoir mettre en place un plan de gestion régionale des déchets ménagers. Comme la plupart du temps sur ces questions-là, les choses se passent très souvent entre experts et responsables dans un niveau très, très restreint. Et le public n'en a connaissance et la plupart des gens n'en ont connaissance qu'à partir du moment où le plan est mis en enquête publique pour que chacun puisse donner son avis. Nous pensons à France Nature Environnement qu'il est préférable de travailler très en amont, et d'aller à la rencontre des gens pour savoir un peu quels sont les problèmes de terrain, quels sont les besoins, et les faire remonter Nous aurons probablement notre avis à donner en tant que, qu'association de protection de l'environnement sur, sur ce plan régional. Donc, il est important pour nous d'aller rechercher l'information, mais aussi peut-être d'essayer de faire remonter certains arguments ou certaines propositions bien avant l'écriture du plan, de façon à ce qu'elles soient prises en compte et intégrées. Alors, bon. C'est pas gagné d'avance, mais si nous arrivons un peu à sensibiliser au préalable et à faire remonter des arguments qui prennent corps dans les problèmes qui ont pu avoir lieu au moment de la création des plans départementaux, peut-être que on a une chance quand même que les choses soient organisées de façon la mieux adaptée possible. Donc là, on a eu une rencontre où il a été question effectivement de la problématique départementale, de ce qui avait été prévu au niveau du plan départemental, des faiblesses ou au contraire des points positifs qui ont pu surgir de ce plan qui avait été mis en place. Et aussi, la question se pose aujourd'hui quelle va être une position qu'on va essayer de tenir et des arguments qu'on va pouvoir faire remonter pour que ce plan régional ne soit pas négatif pour des zones rurales telles que les nôtres.
Voilà, c'est ce que je voulais vous demander, quels étaient les avantages et les inconvénients que ce soit traité par la région plutôt que par département.
Je dirais que le principal inconvénient, c'est qu'on éloigne encore la problématique de l'acteur principal qui est le citoyen. Et donc, plus on éloigne, en fait, le citoyen des conséquences de ses actes, et moins il aura conscience de l'impact que ça peut avoir sur son environnement. Donc ça, effectivement, l'échelle régionale pour un plan de gestion de déchets ménagers, a priori, je dirais personnellement que ça n'est pas forcément l'échelle souhaitable, parce qu'effectivement, ça déresponsabilise encore un peu, dans la mesure où on ne voit pas la conséquence de l'acte qu'on pose. Donc ça, ça va nécessiter d'autant plus de vigilance sur les choix qui vont être faits. Le deuxième inconvénient potentiel, c'est le risque de déplacement de quantité de déchets d'une zone à une autre à l'échelle de la région. Et donc, le risque de faire, de transporter des déchets. Donc, c'est jamais faire des kilomètres et avec tous les problèmes de CO2 que ça entraîne, c'est pas vraiment une bonne chose. Donc là, ce sont des problématiques générées par cette échelle-là. Le point positif d'une gestion à l'échelle régionale peut être sur l'aspect justement du recyclage et d'un meilleur tri peut-être. C'est-à-dire que pour mettre en place des centres de tri, forcément il faut un minimum de production qui les fasse tourner. Et donc si on veut dans un même temps diminuer la production de déchets et mettre en place du tri, il va falloir effectivement rassembler tout ce qui peut continuer à être trié. Alors dans un premier temps, la réponse, je dirais, va être ou devrait être un maximum de tri à l'échelle individuelle et à l'échelle locale, c'est-à-dire que chacun, effectivement, fasse un premier tri important, et puis ensuite rassembler tous ces éléments différents qui pourront être recyclés. Et donc là, en effet, l'échelle régionale permet d'avoir les quantités suffisantes pour envisager du recyclage de façon plus facile que peut-être une échelle départementale où on n'aura pas à ce moment-là les structures et les industries susceptibles d'effectuer le recyclage. Donc ça, c'est l'aspect positif, je dirais, de l'échelle. Donc là, on sait déjà que pour certains déchets qui étaient gérés à l'échelle régionale, donc les déchets dangereux, par exemple, il y a eu à l'échelle entre PACA et puis la région voisine, il y a eu des accords pour un traitement qui soit plus centralisé. Donc les quantités d'éléments à recycler sont effectivement importants à rassembler. Là, on aura, je pense, sur des choses comme le verre ou le plastique, sans doute, des possibilités intéressantes.
Est-ce que le fait que j'ai l'impression que de plus en plus de citoyens se mettent à trier pour le compostage de leur jardin, ça peut être considérable au niveau de la réduction des déchets?
Ah, complètement. Les chiffres montrent que la partie fermentescible, donc ce qui peut être composté, est à peu près équivalent à 30% de notre poubelle. Donc ça veut dire une diminution d'un tiers déjà si on enlève toute cette partie-là.
Un tiers.
Donc ça, c'est très important à l'échelle individuelle, je dirais, familiale. Après, aujourd'hui, la loi prévoit aussi que les déchets verts ne doivent plus être brûlés, puisqu'il y a des dégagements donc, de fumée et de gaz carbonique. À partir de là, le traitement se fait par broyage et compostage. Donc là aussi, c'est un aspect important. Nous avons des actions dans ce sens, donc en direction des communes, mais aussi du grand public, sur les alternatives au brûlage et donc sur le broyage des déchets et le compostage. Donc là, on va avoir une journée qui va se passer à Fort-Calquier le 11 juin avec une animation et donc une démonstration de broyage de déchets verts.
Et ça paraît fou quand même de penser que de brûler des déchets verts pollue, quoi. Ça
oui.
paraît alors, insensé par rapport à tout ce qu'on a comme pollution
autre,
oui, que ce soit les usines ou les centrales.
C'est évident que.
Et les voitures.
A priori, il y a aussi d'autres axes qui devraient être pris en compte, effectivement, peut-être de façon prioritaire. Bon, bien évidemment, c'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup à France Nature Environnement PACA sur la question des transports et l'aspect pollution automobile aujourd'hui et pollution par le transport individuel est effectivement quelque chose qui est extrêmement important. Dans la plupart des villes, une grande partie de la pollution générée et une grande partie de la difficulté au niveau des respiratoires que peuvent supporter les gens, les moments où il y a des alertes à l'ozone, etc., c'est directement en lien avec la quantité de rejets des automobiles. Et c'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup sur cette question-là pour essayer de remettre en place, au niveau de la région PACA, des transports collectifs qui soient adaptés aux besoins, qui répondent vraiment aux nécessités que présente une région comme la nôtre. Et bon...
Le covoiturage commence à se faire un peu plus connaître, enfin,
oui,
être
oui,
un peu plus
vrai.
Utilisé.
Mais on voit aussi, enfin, je pense que là, ce sont les décideurs qui ont un temps de retard, parce que on voit quand on voit les parkings de covoiturage, que ce soit au Mai ou que ce soit à Manosque, moi, je passe régulièrement sur ces secteurs-là et je les utilise, et ils sont utilisés au maximum. Il arrive qu'on ne trouve plus de place alors que au départ, enfin, ça paraissait pas gagné.
Oui.
Et ça marche très très bien. Je veux dire, et quand on donne aux citoyens la possibilité d'agir réellement, c'est-à-dire que qu'on simplifie les choses, le fait de mettre un parking à l'entrée de l'autoroute, ça permet de s'organiser pour pouvoir covoiturer de façon facile, techniquement et agréable. Enfin, sur la question du tri des déchets, c'est la même chose. Si on arrive à proposer aux gens des solutions rationnelles qui ne leur demandent pas des efforts démesurés, ça fonctionne. Mais effectivement, il faut mettre en place des réponses adaptées et qui soient utilisables de façon facile.
Alors, on va en venir à beaucoup de dates qui sont notamment citer Solidaire en mai, dans vos premiers rendez-vous, où on va pouvoir à Digne voir un de vos stands. Qu'est-ce qui va se passer
Alors, oui, nous avons effectivement de multiples événements auxquels nous participons dans les semaines et mois à venir. Donc, c'est vrai que le premier, c'est samedi, dans le cadre de Cité Solidaire. Et donc, ça se passera à Digne, à côté de l'Atrium, donc vers la place du Général de Gaulle. Nous aurons un stand d'information sur l'association, puisque, bien sûr, pour nous, il est important toujours d'aller à la rencontre de potentiels adhérents. Mmh. Et on espère bien qu'à chaque fois, ces moments-là nous permettront d'avoir de nouveaux participants pour que l'association...
Combien d'adhérents à ce jour?
À ce jour, alors c'est compliqué parce que c'est assez fluctuant. Donc nous avons un petit noyau d'une centaine d'individuels. Et puis ensuite, il y a des associations qui adhèrent un temps, qui reviennent ou qui repartent. Enfin, ça fluctue. Donc en fait, on n'a jamais de chiffres exacts localement. Mm-hmm. Donc là, mis à part ce stand d'information sur toutes nos actions, on a aussi une animation qui est prévue, qui est sur la forme d'un jeu, question pour un champion du développement durable ou de l'environnement, bref. Et donc... c'est quelque chose qui s'adresse au public, qui est extrêmement ludique et qui amène les gens à voir un peu leur état de connaissance sur des domaines spécifiques liés à l'environnement. Alors c'est parfois sur l'eau, c'est parfois sur la forêt, c'est parfois généraliste. Enfin, tout dépend de l'événement en question et des axes qui sont choisis et des thématiques. Ce jour-là. Donc voilà, donc là, effectivement, j'invite les Dinois à venir tester leurs connaissances et à venir jouer avec nous, bien sûr, sur ce...
Ça sera toute la journée.
Sur cet aspect. Ça sera toute la journée. Donc ça, nous participons aussi donc, dans le cadre de la semaine du développement durable, donc, qui se tient du 30 mai au 5 juin. Nous participerons à une journée qui est organisée à Château-Arnoux le 5 juin, donc avec un stand aussi. Là, ce sera plutôt un stand sur l'aspect recyclons nos déchets, le recyclage globalement. Une chose importante, donc c'est le 3 juin à Manosque cette fois. Donc nous avons rendez-vous au cinéma Le Lido à 19h30 pour la projection du film documentaire Demain. Qui est j'espère que tous ceux qui ne l'ont pas encore vu viendront le voir et que ceux qui l'ont déjà vu éventuellement viendront le revoir. Oui.
Donc au cinéma Le Lido à Manosque le 3 juin à
19h30. La séance est affichée à 20h30, mais nous commencerons. En fait, ce film est ce documentaire est axé sur les réponses, sur les solutions, sur les gens qui font des choses.
Un film positif plutôt que alarmiste.
Voilà. Et donc, on a décidé, pour cette raison, de commencer le débat avant le film. D'accord. Parce que très souvent, lorsque nous faisons des réunions sur les questions de l'environnement, on est très souvent sur des constats alarmants, négatifs, qui dépriment un peu, plutôt que de donner l'envie d'agir. Et donc là, on se dit, bon, si la discussion démarre sur des constats assez tristounets, eh bien, le film va montrer et va redonner de la dynamique et de l'élan aux gens. Il va leur montrer qu'on peut agir, on peut faire des choses et qu'il y a des choses qui se font.
Un film qui s'est fait sur 3-4 ans et justement plutôt à l'étranger. Hein,
oui.
Par Mélanie Laurent et notre personne.
Oui, Cyril Dion et Mélanie Laurent. Mm-hmm. Voilà, c'est un documentaire.
Mais ça ne se passe pas en France. Quoi.
Il y a quelques interviews, me semble-t-il, aussi. Mais effectivement, ils ont essayé de voir les choses à l'échelle de la planète et sur un plan, et de montrer comment, localement, il y a des réponses aux problématiques globales, je dirais. Mm-hmm. Hein, c'est dans ce... Effectivement, c'est quelque chose qui, je trouve, donne vraiment l'envie de relever ses manches aussi et d'y aller. Donc ça, voilà, à ne pas oublier. Et donc c'est quelque chose qu'on a mis en place sur les aspects initiatives locales dans le cadre d'un projet que nous menons sur Manosque, qui est une exposition sur la transition énergétique. Et donc, il y a eu, qui sont encore affichés d'ailleurs, 10 portraits d'habitants, ou qui vont être affichés d'ailleurs, puisqu'on fait le démarrage se fait avec le film, et ensuite, nous verrons les portraits de 10 habitants du bassin manosquin qui ont accepté de parler et d'exprimer ce qu'ils pensaient sur le sujet de la transition énergétique. Et donc, à cette occasion, il y aura aussi des exemples d'initiatives locales de façon à débattre avec le public. Voilà, et donc cette action-là, ce projet-là est lancé à partir du film demain qui aura lieu...
Le 3 juin, donc c'est un vendredi, à Manosque, voilà. Au cinéma Le Lido, à 19h30. Alors, on a le 3 juin,
puis,
le 5 juin, le recyclage des déchets, c'est un dimanche... dans le cadre de la semaine du développement durable, à Manosque et ça se passe où ? Non, à Château-Arnoux, là.
À Château-Arnoux. Mm-hmm. C'est une grande journée qui est organisée à Château-Arnoux. Donc, je crois qu'il y a une brocante aussi, je ne suis pas certaine. Enfin bon, on a choisi l'axe recyclage pour notre stand. Et sur le mois de juin aussi, nous avons le 11 juin sur Fort Calquier, une animation sur la question des déchets verts et donc les alternatives et le broyage des déchets verts.
Et le lieu exact
Alors, sur Fort Calquier, je ne peux pas vous dire. J'ai pas le lieu. Bon, je reviendrai.
D'accord.
Je vous ferai passer l'information avant.
D'accord.
Avant la
date
prévue.
Une journée de démonstration
sur le broyage des déchets verts, puisqu'en fait, ce qu'on a, alors ça s'appelle BRM, c'est le produit qui est issu du broyage des déchets verts. Donc, ce sont des copeaux de bois qui peuvent se décomposer assez rapidement. C'est-à-dire que le déchet vert, une fois qu'il est en petits copeaux, en petits morceaux, ça facilite le fonctionnement de la décomposition, les bactéries, etc. Et donc, c'est un excellent paillis pour toutes les cultures. À la fois, ça amène un enrichissement de la terre et un développement de tous ces micro-organismes, mais aussi, ça permet une moindre évaporation de l'eau. Et donc, ça permet de diminuer les nombres d'arrosages, ça permet de conserver un sol plus souple, de favoriser la pousse des plantes. Donc, c'est quelque chose qui, aussi bien dans les vergers que sur certains points du potager, ça peut être extrêmement utile. utile d'utiliser
en complément du compost
mmh. ou en bon ce qu'on met parfois, enfin aujourd'hui ça se voit dans les jardineries et les spécialistes des jardins et fleurs utilisent souvent soit des coques d'amandes concassées, soit des fèves de cacao, enfin il y a tout un tas de produits comme ça, mais on a la même chose en fait si l'on réduit en copeaux tous nos déchets verts.
Donc ce broyage, ça s'appelle le BRM.
Oui, alors ça c'est le nom du produit.
Et pourquoi BRM on
sait Alors pas. C'est un acronyme, mais j'oublie à chaque fois le ça doit être broyage d'ailleurs.
Donc il y aura une démonstration et puis
et une explication de son utilisation.
D'accord. Mmh. Donc ça c'est le 11 juin à Fort-Calquier. Est-ce qu'il y a d'autres dates?
D'autres dates, eh bien nous participons aussi au festival Inventaire sur Digne là. Donc avec une sortie forêt le 8 juillet sur le secteur des Dourbes où on traitera de l'importance de la forêt sur le plan de la ressource en eau, c'est-à-dire à la fois sur la préservation de la ressource au niveau des quantités mais aussi au niveau de la qualité de l'eau, c'est-à-dire le filtre que peut présenter la forêt par rapport à la qualité de l'eau. Donc ça et sur le 9, 8 ou 9 aussi, on aura aussi dans le cadre d'inventaire donc un stand d'information à la médiathèque. Donc ça c'est on a déjà participé de cette façon-là l'année dernière et donc on réitère cette année.
Alors ça, c'est voilà, au niveau des dates, c'est
au niveau des dates, c'est le début juillet. En fait, le festival Inventaire, il est sur la première semaine de juillet, me semble-t-il, du 8 au 11 ou quelque chose comme ça. Donc là, les choses seront précisées à la mi-juin, puisqu'il y a une conférence de presse qui est prévue le 16 juin qui va présenter l'ensemble des animations envisagées.
Prévu le 13 juin.
Le 16.
16, pardon. Bien, on aura donc à ce moment-là plus d'informations.
Vous aurez toutes les informations à ce moment-là, voilà. Mais je crois qu'il y a d'ailleurs déjà dans le petit document qui sort sur Digne, le festival Inventaire commence déjà à avoir communiqué.
D'accord.
Sur les événements.
On a fait le tour ?
Oui, je crois qu'on a à peu près fait le tour pour aujourd'hui. Oui, c'était quand même pas mal
d'informations
diverses. Voilà, juste bien dire qu'on est toujours très heureux quand de nouveaux adhérents se présentent.
Alors, comment ça se passe pour
individuel ou associatif.
L'adhésion où est-ce qu'on s'adresse
Ça peut se faire sur nos stands, justement, quand on est... présent ou bien on peut nous contacter à travers le site FN04, donc en tapant sur internet et là D'accord. il y a tous les éléments de contact. Et puis on est aussi toujours très heureux lorsque ce sont des associations qui adhèrent, parce qu'effectivement ça permet vraiment de rassembler la dynamique sur ces questions-là et de conforter et de consolider chacun. Et ça c'est un aspect auquel on tient beaucoup quand même. Et voilà, dernière chose, eh bien aussi le programme sur la rivière. Donc là, on a des animations prévues donc pour les scolaires et on répond à la demande des instituteurs on est toujours prêt à se déplacer. Donc s'il y a dans le cadre du périscolaire des besoins identifiés, ça peut être vraiment des animations très, très intéressantes pour les instituteurs. et les institutrices.
C'est un travail à temps complet, ce que vous faites.
C'est un travail, oui, c'est un travail énorme. Et je dirais que, bon, déjà, notre salarié, nos salariés, nous avons aussi des jeunes femmes, jeunes filles en service civique régulièrement. Bon, c'est déjà un investissement énorme. Mais on a aussi, et je dois dire aussi, un conseil d'administration et des bénévoles qui sont extrêmement présents et très, très actifs et très dynamiques et qui sont là en appui de façon régulière. Donc, c'est vrai que il y a, c'est plus que du temps plein et il y a beaucoup d'actions où le référent bénévole est extrêmement présent et ça c'est très très précieux.
Vous êtes présidente du FNE 04?
Oui, je suis présidente à l'heure actuelle.
Et combien de salariés?
Nous avons en ce moment deux salariés.
Deux salariés seulement.
Et une jeune fille en service civique jusqu'à la fin de l'année.
En fait, vous pourriez avoir plus de services civiques. Est-ce qu'il y a un nombre limite?
Alors,
ou...
je ne sais pas s'il y a un nombre limite. On pourrait en avoir plus. Ce n'est pas toujours facile. L'accueil d'une personne en service civique, d'un jeune en service civique, nécessite quand même un accompagnement. Et donc, cet accompagnement, il est fait à la fois par notre salarié et puis par les bénévoles. Donc, il faut arriver à garder un équilibre de façon à ce que le service civique se passe, je dirais, au mieux possible pour tout le monde. Et que la personne qui est en service civique puisse aussi travailler sur son projet futur et soit accompagnée et formée par la structure dans laquelle elle est accueillie. Ça n'est pas quelqu'un... à qui on peut donner une mission à remplir et puis la laisser se débrouiller toute seule. Il faut quand même un accompagnement et il faut aussi que les missions qu'on lui donne ou les actions qu'il est ou qu'elle est à faire soient en lien avec ses projets personnels. Il faut quand même gérer cet équilibre-là.
Martine Vallon, merci. On va se quitter. On vous retrouve sur le stand à côté de l'atrium ce samedi 21 mai dans le cadre de Cité Solidaire pour en savoir plus sur le FNE 04 avec la possibilité donc d'adhérer à FNE 04 et également de participer à un jeu, c'est toujours amusant, sous la forme de questions pour un champion. Donc la journée du 21 mai. Bonne journée et puis à très bientôt.
À bientôt et c'est moi qui vous remercie. Bonne journée aussi.
Au revoir.